Rencontre avec Bernard Quénu. Il anime des ateliers d'art plastique avec son association qui s'appelle ARAC. Il partage son temps entre l'animation de ses ateliers, qui se déroulent pour la plupart dans l'ex-bassin minier, et puis le spectacle vivant. Bernard Quénu, au micro de PFM, il commence par nous expliquer ce que signifie le nom de l'asso ARAC.
C'est un mot gitan qui vient d'une traduction d'un mot qui veut dire en ARAC se rencontrer. Et c'est un mot un peu compliqué qui veut dire aussi il y a la rencontre et ça perdure, se rencontrer. Et on cherchait un joli mot pour nommer cette association. Et comme souvent, on va voir dans le dictionnaire français tzigane quel est le mot qui pourrait correspondre. En général, on trouve dans cette langue exactement le mot qu'il faut. Je suis très attaché à la langue gitane parce qu'il m'est arrivé dans mes activités de travailler avec les gens du voyage.
Alors justement, un mot sur votre parcours. D'abord, peut-être comment vous êtes, quelle formation vous avez, puis comment vous êtes venu à participer à des ateliers comme ça de création artistique.
Alors, ma formation initiale, c'est j'ai fait des études de photographie. J'ai commencé à travailler dans la photo. Et très vite, je me suis en même temps intéressé au spectacle, en fait. Et alors que j'étais déjà un ancien photographe et que je commençais dans le spectacle vivant, j'ai eu l'opportunité d'animer pour le compte des CMEA des ateliers de photographie dans le cadre de la formation de travailleurs sociaux. Et ça, c'était en 78. Et depuis, je n'ai cessé d'animer des groupes. Et ensuite, j'ai quitté ce type d'organisme. Et j'étais amené à travailler dans les communes avec des gens, socialement éloignés de l'emploi, avec des problèmes, avec des problématiques assez lourdes. Et c'est ce qui nous a donné l'idée dans l'association de mettre en place des ateliers justement pour ces gens éloignés de la pratique artistique.
Ouais, alors avant de parler un petit peu de votre démarche dans ces ateliers, c'est des ateliers pas seulement photo, hein, vous faites aussi de la peinture et puis des fresques. Peut-être un mot sur les différents aspects de ces ateliers, les différentes pratiques.
Oui, alors il y a deux cas de figure en fait. Soit une commune commande une œuvre plastique, qui peut être une fresque murale, intérieure, extérieure, qui peut être des tableaux, qui peut prendre toutes les formes de pratiques qu'on peut imaginer. Mais aussi, quelquefois, c'est nous qui proposons à une commune un produit, on va dire, artistique. Par exemple, il y a dans l'ex-bassin minier où je passe le plus clair de mon temps dans le cadre de l'animation de ces ateliers, on a laissé des traces un peu, bon, par exemple, au centre Matisse à Noyelles-Godault, on a laissé une fresque où on peut voir Matisse au visage multiplié à la manière de Wendy Harrell. On a laissé au centre Mandela de Noyelles-Godault un grand portrait de Nelson Mandela, puisque c'est comme ça que le centre s'appelle. Et comme ça, à Oigny, à la maison d'accueil, on a laissé, là c'est une fresque extérieure. Ça peut prendre effectivement des formes très diverses et variées.
Alors le point commun quand même, c'est la photo, l'image, ce qui est votre intérêt, votre premier intérêt, c'est ça ?
Oui, pour que tout ça puisse se tenir et puis qu'il y ait une cohérence dans les projets, nous, notre fil rouge, en fait, c'est la photo. C'est-à-dire que, par exemple, dans les ateliers de peinture où les gens peignent, on n'essaye pas de partir forcément dans l'abstraction ou dans des choses comme ça qui seraient un peu difficiles à maîtriser en si peu de temps, car en général, c'est des ateliers assez courts. Donc, je demande aux gens de ramener des photos de famille. Et c'est à partir de ces photos de famille qu'on commence à travailler, quoi qu'on fasse à la limite. Et on part du postulat que dans l'histoire personnelle des gens, il y a à un moment une dimension collective. Et c'est cette chose-là, c'est ce passage de l'individuel au collectif qui nous semble intéressant. Parce qu'ensuite, quand on fait les expositions, les spectateurs qui viennent voir les tableaux peuvent s'identifier, peuvent s'identifier et retrouver des choses qu'eux ont connues. Et ça devient, à ce moment-là, ça devient, il y a des débats qui deviennent très, très intéressants.
On parlait du public que vous rencontriez, que vous touchiez. Peut-être un mot sur des différents âges. Est-ce que c'est plutôt des jeunes, des personnes âgées ou des enfants? Et puis, pourquoi c'est important? Bon, il y a beaucoup de gens, notamment dans les classes populaires, qui se disent « Bon, l'art, c'est pas pour moi. C'est plutôt un truc pour les bourgeois. » Et comment vous allez contre peut-être ces préjugés et puis pour leur montrer que c'est... Ça peut être aussi pour eux.
Alors les gens avec qui on travaille, bon, au départ en priorité, ce sont des gens donc qui sont, comme vous venez de le dire, éloignés de l'emploi ou alors dans des situations sociales difficiles. Ça c'est l'objectif de l'association. Mais après, effectivement, on travaille aussi avec des enfants en temps scolaire, puisqu'on rentre dans les établissements scolaires, ou hors temps scolaire, soit pendant les vacances, dans les ateliers du soir. C'est une façon... pour nous, c'est une façon aussi d'entraîner des jeunes, des enfants dans cette aventure-là. Alors... Qu'est-ce qui peut amener des gens, des adultes par exemple, à pourquoi on invite ces adultes à venir dans nos ateliers? D'abord, je dirais, c'est la phase la plus difficile. Parce que pour paraphraser un slogan, pour ces gens, quand on fait une information dans une commune, pour qu'ils viennent, c'est la phase la plus difficile parce qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi on leur propose ça. Et la dernière phase, la plus difficile, c'est qu'en général, quand ils y ont goûté, ils ne veulent plus partir. Et on a beaucoup de mal à leur expliquer que l'atelier est fini, parce que c'est toujours sur des temps très déterminés, et des temps courts en général. En général, dans les communes, les ateliers durent 60, 80 ou un maximum d'une centaine d'heures, guère plus. Alors, qu'est-ce que ça peut leur apporter? Ça peut apporter aux gens... Alors là, j'ai des exemples dans tous les sens. Une fois qu'une personne a accepté de participer à un de ces ateliers, elle se rend compte d'abord qu'elle est capable d'y arriver. Donc, il y a souvent une phase de... On est déjà là dans une phase de valorisation. Par exemple, quand on travaille sur les tableaux et qu'on commence à faire des maquettes, les premières maquettes, ils les ramènent chez eux. Et quand ils viennent, moi je leur dis, chez toi on t'a dit, c'est pas toi qui as fait ça. Ils me disent, comment tu le sais? Parce qu'en général, c'est ce que les gens me disent. Et puis ça a des effets sur le... Par exemple, un truc tout simple, un père qui n'a pas travaillé depuis des années, il est chez lui. Il a peut-être plus tellement de moyens d'être valorisé aux yeux de ses enfants. Donc le fait de revenir chez lui avec des tableaux, expliquer ce qu'il fait, être plus détendu aussi parce que les soucis restent à la porte de l'atelier, font que il y a comme ça un bien-être en fait qui naît de cette pratique. Et ça je le constate à une forte majorité à chaque fois. J'ai l'exemple d'une dame par exemple qui a même réussi à faire baisser sa tension. C'est une personne qui ne pensait jamais à elle, qui était isolée, qui s'occupait d'une tante et de sa propre mère qui étaient deux dames handicapées. Et elle ne pensait jamais à elle. Et elle était soignée pour l'hypertension. Et elle est venue à l'atelier, elle a appris des petites techniques simples. Elle a installé un petit atelier de peinture chez elle, où elle peignait le soir, quand tout le monde était couché, enfin, quand elle avait fini sa journée. Et elle peignait une ou deux heures comme ça tous les soirs. Et son médecin n'y croyait pas. C'était la première fois de sa vie qu'elle arrivait à cette baisse de tension et une stabilisation dans son état. J'ai aussi une maman qui m'a dit un jour, « Maman, on aime bien quand tu vas à l'atelier parce que le soir, tu cries moins. » Vous voyez, des exemples comme ça où on avait le pressentiment au départ que c'est une pratique artistique, quelle qu'elle soit, puisse être bénéfique pour les gens. Mais depuis maintenant toutes ces années, je crois qu'on l'a largement prouvé, quoi. Et moi, c'est pas nous qui le disons, ce sont les participants eux-mêmes qui le disent en fait.
la suite de notre entretien. Bernard Quenu, animateur d'atelier d'art plastique au micro de Radio PFM.
Est-ce que c'est aussi un endroit privilégié d'expression à la fois individuelle et puis peut-être collectif sur des revendications, une expression en fait populaire quoi.
Je dirais que ça vient naturellement. D'abord, il y a une chose qui m'a toujours épaté dans les ateliers. Là, on parle avec les adultes, hein, bien entendu. Ce sont, quelle que soit la situation, et on sait, quelquefois, c'est pas de la curiosité, mais je sais, j'arrive à savoir, quelquefois, la situation des gens. Je suis toujours étonné que les soucis, comme je disais tout à l'heure, restent à la porte de l'atelier. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a une dimension collective. Beaucoup de gens qui viennent dans l'atelier n'avaient pas fait des choses avec un groupe, avec d'autres, depuis longtemps, pour certaines personnes. Donc, il y a une remise en groupe, comme ça, avec des échanges et effectivement des réflexions. En général, dans l'atelier, on ne parle que de peinture. Ça, c'est curieux aussi. Parce que, bien que ce soit, par exemple, si on prend les ateliers de peinture, c'est des travaux individuels, tout le monde se mêle de tout. C'est-à-dire que, pourquoi t'as mis du bleu là, moi j'aurais mis du vert, ça fait débat en fait. Maintenant, pour ce qui est des revendications, je dirais que c'est plutôt les gens discutent entre eux de leur situation. Et par exemple, il n'est pas rare que lorsque je quitte la commune, les gens se soient organisés pour pouvoir continuer leur atelier d'une manière autonome. Et ça arrive fréquemment. Alors si c'est dans un centre culturel, ces personnes discuter avec le directeur et voir dans quelle mesure elles vont pouvoir continuer à fréquenter l'atelier de manière autonome. Donc effectivement, je pense qu'il y a, en dehors de ces effets de bien-être et de développement personnel dans les ateliers, il y a cette projection en avant, cette envie de continuer à faire des choses ensemble. Et puis, quand ça se fait comme ça de manière autonome, c'est formidable, parce que c'est des gens qui ont pris leur destin en main, en fait. Et, alors après, reprise de confiance en soi, donc peut-être aussi avoir envie d'aller plus loin, et puis peut-être avoir envie aussi de se remettre dans le circuit, dans les circuits du... on va dire même du travail, ou cette phase de désespoir, un peu de se dire de toute façon, moi à mon âge c'est cuit, non, à partir de quelques fois d'un tableau ou deux, on s'aperçoit qu'on est encore capable de faire des choses, qu'on a encore des choses à produire, et que ça peut effectivement, par ricochet, changer des choses. J'étais le témoin de ce genre de choses.
Alors, vous habitez, il me semble, à Arras, en tout cas sur l'Arrajois, et vous travaillez plutôt dans le bassin minier. Est-ce que c'est un hasard?
Alors, dans ce cadre-là, la première action qu'on a menée, c'était à Hénin-Beaumont. C'était pour la décoration d'une unité territoriale. Alors, c'était un travail photographique. Et alors, c'est le bouche à oreille, en fait, ça s'est fait comme ça. Il y a une commune d'à côté qui nous a demandé pour un autre projet, et puis ça s'est étendu. Et puis maintenant, on est plutôt dans les communes comme ça, qui font partie de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin, et puis d'autres maintenant qui sont autour. Donc ça se passe effectivement plus dans le bassin minier. C'est comme ça, c'est ni par hasard, ni... moi ça me va très bien, j'aime beaucoup la mentalité de ces gens qui sont encore, qui sont pour la plupart encore des enfants de mineurs, qui ont été même mineurs eux-mêmes, et voilà quoi, c'est comme ça.
Ouais, est-ce que c'est en fait le sens de ma question, c'était est-ce que ça veut dire que Arras, on fait pas appel à vous? Bon, on sait qu'il y a pas forcément beaucoup d'ateliers de pratiques artistiques à Arras, bon, il en existe mais relativement peu. Puis on se souvient aussi qu'il y a une association qui œuvre là-dedans et qui a déménagé, Théa, qui œuvre maintenant à Méricourt, il me semble.
Méricourt, oui. Oui, alors Arras, c'est Arras quoi. Hein. Il y a effectivement, moi je pense, c'est dommage quand il y a des associations comme celle que vous venez de citer, sont obligées de déménager. Maintenant, Maintenant, il faut souhaiter que. Oui, le même besoin se fait sentir à Arras qu'ailleurs. Donc, ouais, je pense que on peut souhaiter que ce genre d'action se développe. Il y a des gens aussi à Arras, il n'y a pas que moi, hein, qui fait ça à Arras. Il y a des gens très, très compétents qui font ça depuis très longtemps aussi. Et il faut souhaiter effectivement qu'un maximum de personnes puissent bénéficier et profiter de ce type d'action.
Alors un dernier mot avec vous, si vous voulez bien, Bernard Canu. Donc c'est sur votre parcours aussi en tant que homme de spectacle. Comment donc en parallèle de votre activité, hein, vous avez toujours gardé cette dimension d'homme de spectacle de rue, c'est ça?
Oui, voilà, spectacle de rue en grande partie. En fait, oui, ça fait maintenant plus de 30 ans que je partage mon temps entre l'animation de ces ateliers et le spectacle vivant, le spectacle de rue, sous la bannière de la Compagnie de la Marelle. Voilà, nous avons sillonné les routes d'Europe avec nos orgues de barbarie. Et là, nous préparons, avec la compagnie du scénographe, un spectacle qui rentre dans la commémoration du 90e anniversaire de l'armistice. Donc voilà, on est encore dans le mouvement du spectacle. Et puis, je crois que ça peut être deux choses qui se complètent, qui se nourrissent l'une de l'autre, en fait. Et que moi, ça me va très bien.
Vous promeniez dans l'Europe avec votre orgue de barbarie dans enfin, je sais pas, dans un camion, quoi. Enfin, comment ça se passait en fait?
Nous avons travaillé donc toutes ces années avec des orgues de barbarie. Ça se passait qu'à l'époque, il y avait des gros festivals. Enfin, il y a eu un engouement pendant une bonne quinzaine d'années à travers l'Europe avec un engouement pour ce type d'instrument. Et nous étions appelés par ces communes qui pouvaient être à travers la France ou en Allemagne ou en Angleterre ou aux Pays-Bas, pour faire notre travail d'animateur de rue, en fait, basé sur la chanson et la musique. Et ça existe encore.
Ouais. Notamment, il me semble, dans la région, il y a un café où il y a encore, enfin, il y a un orgue de barbarie qui s'utilise de temps en temps, c'est ça?
Oui, c'est à Herzl, c'est dans les Flandres, ça vaut le détour. C'est un café qui a une arrière-salle qui est immense, avec des orgues monumentaux. Et là, le dimanche, les gens du coin se rassemblent et dansent au son des orgues.
Comment s'appelle le café en fait?
Alors le café, je ne sais plus, je sais que c'est le propriétaire, c'était Monsieur Hamelot. Mais il est très facile à trouver, il est au centre du village d'Herzl et on l'entend de loin.
Bernard Quénu au micro de PFM. Notez que le café dont on vient de parler, après vérification, c'est justement le Café des Orgues. C'est à Herzl, près de Wormhout, entre Lille et Dunkerque. Alors pour avoir plus d'informations sur l'association ARAC, direction la toile et le site internet très bien fait en prime avec pas mal de photos, c'est arac.org, arakh.org.
Thank you.